就与父随的阿阿语。
18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. J'espère que vous avez pu passer un super long week-end ensoleillé avant de bientôt commencer le deuxième. Ce soir, dans la quotidienne, nous vous proposons en deuxième partie d'émission d'écouter une interview du musicien Yann Tiersen, qui était en concert à Dialogue Musique le mercredi 30 avril dernier. Mais tout de suite, nous vous proposons de découvrir le festival du cinéma espagnol et latino-américain qui a commencé le 22 avril et se terminera demain. Pour en parler, nous accueillons Marie-Agnès Maï, coordinatrice de l'organisation pour le festival. Bonsoir Marie-Agnès.
Bonsoir.
Donc ce festival, il a été rendu possible par la collaboration entre l'association donc Brest Jumelage, avec Cadix, le département d'espagnol de l'université de Bretagne occidentale, MER 29, et le pôle ibérique et sa section espagnole entre autres. Comment vous êtes-vous organisé entre vous pour organiser tout ça ?
Eh bien, nous connaissions, hein, nous avons pris contact et nous avons d'abord étudié les différentes possibilités, les films que nous pouvions proposer au studio, les intervenants que nous pouvions proposer, en tenant compte justement de notre diversité pour nous adresser à différents publics, hein, allant des enfants d'école aux étudiants universitaires, etc. Et donc, dans la composition de cette équipe, Sébastien Burel représente l'école primaire, le collège, le lycée, et Ivan López Cabello de l'UBO, davantage les étudiants, les universitaires. Que... Et Pierre Souchard, de MER 29, représentant davantage l'aspect histoire contemporaine, en particulier de la mémoire républicaine.
Comment est-ce que vous avez choisi les films qui ont été projetés pendant ce festival ?
Alors, nous avons proposé toutes les composantes là, de cette collaboration. On proposait un certain nombre de films. Nous nous sommes réunis pour choisir ceux qui convenaient à tout le monde, ce qui nous paraissait les meilleurs. On en a dressé une liste de 40 que nous avons proposé à Sébastien Le Goff au studio. Et le problème était évidemment que les films aient des droits de production, ce qui n'était pas le cas de tous. Il a distingué une quinzaine de films dont il a eu les droits et il nous en a proposé 3 autres. Et nous sommes arrivés donc au total de 18 de films qui semblaient convenir à toutes les composantes.
Donc parmi la sélection, on retrouve un bon nombre de comédies dramatiques. Est-ce que c'était volontaire cette coïncidence, entre guillemets ?
Pas véritablement. Ce qu'on recherchait avant tout, c'était la variété, comme je l'ai dit, pour s'adresser à tout le monde. Hein. On recherchait des films récents, si possible. On a obtenu d'ailleurs des avant-premières. Hein. Et ensuite, ça dépendait beaucoup de ce qui était disponible, de ce qui était proposé. Hein. Donc, on a choisi quand même à l'avance, si possible, un certain nombre de comédies dramatiques.
Donc là, le festival n'est pas encore terminé, il reste une journée. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est commencé. Est-ce que vous avez déjà pu avoir des retours du public ?
Eh bien, dans l'ensemble, les retours du public sont assez satisfaisants. Hein. Ils ont apprécié le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants commentant, présentant et commentant, animant les projections, hein, qui donne beaucoup plus de dynamisme mais aussi de profondeur à la découverte du film. Il y a eu d'excellents intervenants, des critiques de cinéma, et puis des personnes de notre association, donc par exemple Sébastien Burel qui a présenté El Professor, qui était un film particulièrement destiné aux scolaires, et ce film a obtenu une grande audience. Bertie des studios me confirmait récemment que c'était pratiquement le film qui avait obtenu la plus grande audience. Sinon, oui, la satisfaction générale, hein, en tout cas des personnes qui se sont adressées à nous. Hein, et sinon aussi, les films un en particulier avec un intervenant, la ferme Evenka, une ferme Itu en Espagne, et Marco, l'énigme d'une vie, qui est un film également en avant-première. Ils ont attiré moins de spectateurs puisqu'il c'était une journée pour Marco, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient très intéressées.
Une des nouveautés aussi, c'est que plusieurs des films sont des collaborations avec la France, comme l'énigme Velasquez de Stéphane Sorla, voire même des réalisations françaises comme le documentaire Guérilla des FARC, l'avenir à une histoire de Pierre Carle. Pourquoi ce choix ?
Alors pour la Guérilla des FARC, c'était un choix de cinéma et studios. Il y a eu pas mal de monde. Pour l'énigme Velasquez, ça n'était pas particulièrement le fait que ce soit une réalisation Espagne-France, mais que le sujet nous intéressait beaucoup et que la narration était vraiment très intéressante, poétique et très approfondie. Elle a été présentée par Sébastien Burel et je pense que ça a été également un documentaire qui a eu beaucoup de succès.
Il y a pas mal de séances qui ont été présentées par des intervenants, vous en parliez tout à l'heure, des intervenants qui viennent un peu partout. On a déjà parlé de Sébastien Burel, qui est prof d'espagnol au Collège des Quatre Poulains. Il y a aussi Thomas Puto, critique du cinéma, ou encore Marie Soledad Rodriguez, professeure en études ibériques à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Vous parlez justement du fait que ça a beaucoup plu au public, et vous personnellement, ou alors dans le cadre du festival, qu'est-ce que vous pensez que ça a pu aussi apporter ?
Mais je pense que ça dépend beaucoup des intervenants, mais en fait, dans l'ensemble, ça a apporté beaucoup de choses. Par exemple, le film d'ouverture, Tardes de Soledad, Après-midi de solitude, qui décrit la journée d'un torero, un film esthétique un peu difficile à aborder. Et le critique, Corentin Lee, a beaucoup aidé les spectateurs à appréhender en profondeur ce film. Marie Soledad Rodriguez a présenté un livre qu'elle vient d'écrire, qu'elle vient de publier sur les réalisatrices contemporaines espagnoles, puis elle a présenté Isiar Bollaín, la réalisatrice du film Soy Nevenka, puis le film, et ensuite il y a eu un débat très intéressant avec elle. Dans un autre cas, pour Simone de la Montaña, c'était également un critique, et le débat a été très, très fructueux.
Donc demain, le film de clôture, ce sera Segundo Premio, un drame musical sur le groupe de rock espagnol Los Planetas. Donc il a été choisi pour représenter l'Espagne pour les Oscars 2025. Sa première diffusion, c'est ici, en avant-première. Que pouvez-vous nous dire sur ce film ?
Eh bien, je ne l'ai pas vu, évidemment. Ce qu'on nous a donné, les informations qu'on nous a données nous ont semblé intéressantes. Les prix qu'il a obtenus, il a été traité de chef-d'œuvre, obra maestra, la película del año, le film de l'année par le monde espagnol. Et il a été le grand gagnant du Festival de Malaga. Il a eu des Goya meilleur réalisateur en 2025. Et c'est un film musical, donc, qui nous semble convenir à une fermeture et une clôture du festival, ce qui peut en particulier intéresser les jeunes, les étudiants, hein, puisque c'est l'histoire de l'enregistrement d'un album emblématique, hein, Una semana en el motor de un autobús, une semaine dans le moteur d'un autobus, et que ce 33 tours s'ouvre sur une chanson, Segundo Premio, qui va changer pour toujours la scène musicale, mais évidemment au moment du film, l'histoire du film, on ne le sait pas.
Qu'est-ce que, par rapport au festival, et enfin, vous avez déjà eu des retours du public, et par rapport aussi aux années précédentes, qu'est-ce que ça peut vous dire du rapport du public brestois au cinéma étranger ? Allô ?
Oui, je réfléchis à votre question. Le public brestois par rapport au cinéma étranger. Mais je sais que le public brestois apprécie, par exemple, le cinéma britannique, et d'autres nationalités. Évidemment, me suis surtout intéressée à son rapport avec le film espagnol. Je pense que le public brestois apprécie de toute façon, d'une façon générale, l'ouverture. L'ouverture sur le monde cinématographique et culturel. Et donc, apprécie, je pense, ces festivals de toute nationalité.
Est-ce que vous avez déjà des pistes pour la 37e édition ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi ? Ou des nouveautés que vous voudriez mettre en place l'année prochaine pour le festival ?
Alors, c'est une excellente question. Nous sommes en train de penser à la suite. Nous allons d'abord faire un bilan. C'était un petit peu nouveau cette année, cette participation de différentes associations. Et puis, à partir du bilan, nous allons voir ce que l'on pourrait améliorer. Nous avons, en particulier sur les dates, ça, il faut qu'on voit ça avec les studios, pour que les étudiants puissent participer davantage. Et puis, il y a une petite piste qui est le fait que c'est le 40e anniversaire du jumelage Brest-Cadix en 2026. Et donc, il pourrait y avoir éventuellement une petite partie là-dessus. Et sinon, on va essayer de se saisir au maximum des résultats là, de cette saison pour voir ce que l'on pourrait faire l'année prochaine.
Eh bien, merci beaucoup Marie-Agnès d'être venue avec nous pour présenter donc le Festival du cinéma espagnol et latino-américain. Donc, on rappelle que demain c'est le dernier jour pour aller participer au festival, donc demain mardi 6 mai au cinéma et les studios. Et vous pourrez voir le film de clôture diffusé en avant-première, Segundo Premio, à 20h. Merci beaucoup Marie-Agnès.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Agua tirando la cumbia de la Selvia sur Radio U. Et mercredi 30 avril dernier, le public brestois a pu écouter le compositeur breton Yann Tiersen, qui réalisait un concert à la suite de la sortie de son album Rattling from a Distance de Liquid Hour. Nous avons pu en discuter avec lui. Tiersen, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous faites un concert ce soir à Dialogue Musique à Brest. Donc Brest, votre ville de naissance, est-ce qu'il y a un petit vent de nostalgie de jouer à Brest ?
Ouais, non, mais par contre, c'est toujours les trucs les plus stressants quand on joue à la maison, quoi. Enfin, parce qu'il y a les copains, donc...
Donc ce concert, il est aussi un peu l'occasion, aussi suite à la sortie de votre album Rattling from a Distance, Liquid Hour. Un album qui est en deux parties, donc la première partie Rattling from a Distance, composée que lors d'un long voyage en voilier. D'ailleurs, ce voyage, il s'est fini à la salle du Clous à Brest. Toute cette partie, elle était entièrement composée durant le voyage en mer.
Non, pas du tout. Après, non, c'est plus en fait, c'est un album. Enfin, la partie piano qui est assez minimale, c'est une réflexion sur l'identité, sur sur soi, enfin sur la construction, déconstruction. Et du coup, en mer, il n'y a pas de pression sociale, il n'y a rien en fait. Et du coup, c'est un peu construit comme des étapes, un peu une méditation pour se trouver. Et voilà. Et la deuxième partie, c'est plus une fois qu'on s'est trouvé, on descend dans la rue et on.
Donc Et vous avez fait quelques concerts pendant ce voyage. Comment est-ce que cette traversée, elle a un peu changé votre rapport à la tournée et aux concerts ?
Bah, en fait, je trouvais ça un peu absurde de tourner en ayant conscience du dérèglement climatique, de continuer à tourner à l'ancienne. C'est-à-dire, en fait, les tournées... À la base, une tournée, normalement, c'est un voyage. Et puis... pendant le voyage, on fait des concerts. Et sauf que c'est complètement l'inverse. C'était justement avec les modes de transport et c'était plus, on trouve des concerts et on va au concert. Et du coup, on y va, soit on y va en van, soit on y va en tourbus, soit on y va pour les grands groupes en avion, quoi. Et donc c'est n'importe quoi parce que du coup, c'est pas logique et je trouve que c'est l'idée c'était et en plus je trouve qu'on vit de plus en plus dans une société de service et quand les salles sont trop grandes il y a plus du tout d'humain et c'est vraiment du business en fait, enfin pas de il y a c'est comme ça quoi, c'est inhérent, la société est de plus en plus comme ça, c'est que il y a le mec qui programme et puis après il va louer la salle comme il louerait un Airbnb et puis après du coup il va trouver une équipe pour gérer la salle et en fait il y a pas des trucs comme peut y avoir à la Carène ou dans au Vauban quoi, enfin des vraies salles avec des vrais gens dedans et du coup l'idée c'était de pas faire que des grosses salles du coup et aussi mais pour ça faire la tournée en bateau ou en van et être indépendant ça permet de pas avoir de pression économique et de pouvoir faire des concerts dans des grandes salles mais aussi de faire des concerts gratuits et des choses qui seraient pas possibles par le circuit normal, en fait.
Dans cet album-là, il y a une partie qui est faite en musique électronique et l'autre partie, c'est plus piano. Est-ce que ça inspire... Qu'est-ce que ça inspire pour vous, la pratique de la musique électronique ?
Moi, je viens de là, en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé des instruments acoustiques grâce à la musique, grâce au sampler, en fait, grâce à la musique électronique. Donc, moi, c'est un peu un cycle, j'oscille, quoi. À une époque, j'étais tellement devant des machines quand j'ai commencé que pour pouvoir être frais et pour pouvoir faire de nouvelles choses, j'avais besoin de passer par l'acoustique et puis après, c'est passé par l'électrique et puis maintenant, ça revient plus à de l'électronique, quoi. J'ai besoin des deux, donc en fait, il y a les deux, quoi.
La deuxième partie de l'album, Liquid Hour, elle est plus rythmée avec la musique électronique dont on a parlé. Elle aborde aussi du coup le sujet des crises mondiales actuelles, comme notamment le titre Storm, qui débute un petit peu cette partie. Et ça, c'est un terme breton qui signifie combat, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est vrai.
Quelle est un peu votre approche de ces sujets dans ces chansons ?
En fait, moi, le deuxième album, je l'ai construit un peu. D'abord, je l'ai fait pendant les élections européennes et législatives. J'étais un peu énervé. Et comme c'était justement électronique et qu'il n'y avait pas de micro, des fois même, j'écoutais des podcasts ou j'écoutais Blast ou des trucs comme ça pendant que je travaillais. Donc, l'album, il s'est vachement nourri de ça. Et bon, c'est tout bête. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça me ferait super plaisir si les gens, ils avaient ça sur les oreilles en allant à une manif, quoi. Ça va pas plus loin. Enfin, c'est un truc d'énergie et de combat, parce que je pense que maintenant, on est un peu arrivé à un moment où faut bouger et faire de l'activisme actif, et pas parce que même si on vote bien, enfin, on vote bien, il n'y a pas de bien ou mal, mais enfin, bon, si on vote à gauche, il y a quand même la droite, donc à un moment, faut, je sais pas, quoi.
Est-ce que vous diriez que, du coup, la musique, elle sert d'outil, là, justement, en abordant ces sujets-là?
Bah, d'outils, je sais pas, c'est l'album, il est assez de réconfort, en tout cas, pas d'outils, je sais pas, oui, mais ce que je disais, c'est assez simple, quoi.
Est-ce que, du coup, le choix de ces sujets abordés dans cette deuxième partie, le fait de composer avec la musique électronique, c'est quelque chose d'important et ce qui permettait de donner aussi son sens un petit peu à cette idée d'énergie.
Bah, moi, ça a toujours été vachement présent dans ma musique, des moments plus de recueillement, des trucs un peu plus minimalistes et des trucs plutôt énergiques. Si on regarde mes morceaux depuis le début, c'est toujours les courbes, elles sont toujours comme ça. Et du coup, c'est toujours le côté un peu tribal et tout ça, où, enfin... Moi, ça a toujours été vachement lié à la musique, enfin, la danse, enfin, le... Ouais.
Donc les deux parties un peu de cet album, elles ont une sonorité qui est assez, assez différente et les instruments ne sont pas les mêmes, ceux qui sont utilisés dans chaque partie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'associer justement les deux?
Bah, en fait, en général, mes albums, ils ont les deux tout le temps. Et là, je voulais... En fait, j'ai fait un concert à Cork, en Irlande, justement pendant la tournée, là. Et je jouais dans un club, et du coup, je jouais une partie plus électronique. Enfin, c'était l'album d'avant, qui aussi était en deux parties, en fait, sauf que c'est sorti en deux albums différents. Et du coup, après, je jouais dans une église, et le mec qui me faisait venir, qui était super, il me dit « Ouais, non, mais tu vas pas faire que du piano dans l'église, ça va être chiant, vas-y, fais les deux. » J'ai dit « Ah ouais, trop bien !» Et en fait, c'était vachement bien. Et du coup, en concert, j'ai commencé à faire ça, à faire... Pas là ce soir, mais une partie piano solo et après une partie qui n'avait rien à voir. Et du coup, dans cet album, je voulais que les deux, faire ça, mais à l'extrême, quoi. Que le piano soit que du piano hyper calme et voilà.
Pour revenir du coup plutôt à la première partie de cet album, la Rattlin from a Distance. Donc Rattlin, c'est une île en Irlande, si je me souviens bien.
Ouais.
Et donc, est-ce qu'il y avait, enfin, dans la composition et un peu l'état d'esprit de créer, est-ce qu'il y avait une envie vraiment de traduire, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais traduire l'environnement naturel autour de vous?
Non, mais non. Non, parce que c'était vraiment plus sur la méditation et sur se trouver soi-même et tout truc. Et puis, la musique, c'est la musique. Hein. Donc, du coup, c'est... En fait, moi, j'aime bien donner des titres. Enfin, là, pour moi, c'était comme un voyage initiatique un peu, quoi. Et du coup, comme c'est né de cette tournée, mais ça parle pas forcément de cette tournée. Enfin, c'est plutôt le fait de naviguer. Ben, ça, c'est... Ouais, moi, j'ai cette idée-là de se dire, ben voilà, quelqu'un, s'il est sur un bateau, ça va être quoi son rapport à son identité, à son genre et tout ça. Parce que justement, il n'y aura aucun élément extérieur qui vont venir perturber la perception de soi-même.
Donc après ce soir, est-ce que le voyage continue? Parce qu'on peut parler de voyage un petit peu maintenant.
Ouais, carrément. Enfin, après, là, je vais partir en faire une expédition au Svalbard, au Spitsberg.
C'est en Norvège?
Ouais, c'est l'océan Arctique, au-dessus de la Norvège. C'est hyper haut.
C'est là-haut.
Et du coup, l'idée, en fait, le Spitsberg, c'est l'endroit où le réchauffement climatique est le plus, plus rapide. Et du coup, on va là-bas, je vais faire des concerts. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 2000 personnes, je crois, qui y vivent, surtout des scientifiques. Mais je vais faire des concerts là-bas. Et aussi, je vais... l'idée, c'est de recueillir des témoignages, d'interroger les scientifiques, de faire de la musique avec. Et après, je fais aussi... Du coup, après, je redescends. Enfin, j'ai un festival en Angleterre, mais après, je redescends. Enfin, tout ça, on le fait à la voile. Là, le bateau est déjà parti, mais il est en Écosse. Du coup, je embarque la semaine prochaine en Écosse et on monte là-haut. Et après, on redescend en Norvège. Et du coup, pour moi, la Norvège aussi, c'est un pays qui est à la fois hyper progressiste, hyper au fait, enfin, où il y a vachement d'activisme et tout ça, comme la Suède, enfin, les pays scandinaves en général. Mais c'est un pays qui dépend de l'oil, du pétrole vachement aussi. Et il y a vachement de forage en mer du Nord. Donc, en fait, il y a des gros lobbies industriels, il y a des gros trucs un peu dégueulasses. Et puis, de l'autre côté, il y a vachement d'activisme. Et donc, c'est assez fascinant. Enfin, c'est un bon exemple, je trouve. Enfin, Svalbard, enfin, le Spitsberg, ça concentre bien le problème climatique. Et puis, la Norvège, ça concentre bien aussi quel monde on choisit, quoi.
Les scientifiques qui sont là-bas dans cette zone, ils font des recherches justement sur ça, les problèmes climatiques. Intéressant. Bon, ça va être un super voyage en tout cas. C'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Bonne soirée à toutes et à tous.